18h-19h, 100% synthé, 100% synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Synthé, votre émission foot sur l'AS Saint-Etienne. Quel match, quelle folie avons-nous vécu ce week-end à Geoffroy Guichard lors de la 33e journée de Ligue 2, mené au score, réduit à 10, nos Verts ont renversé Bordeaux, victoire 2-1 avec deux buts dans les arrêts de jeu signés Irvine Cardona. Ce match qui entrera peut-être dans la légende de l'ASS si la Ligue 1 est là en fin de saison. On va l'analyser, le débriefer ensemble jusqu'à 19h. Quelles émotions avez-vous ressenti, vous aussi, supporter des Verts, quelles émotions ressentez-vous encore? Venez nous le dire. 04 77 10 0 0 10. La course pour la Ligue 1 qui ne s'arrête pas pour Saint-Etienne. Nouveau match dès demain à Grenoble. Tout ce qu'il faut savoir sur ce match, les dernières infos du changement dans le groupe stéphanois. On vous dit tout ça maintenant. 100% Synthé, c'est parti. On est ensemble jusqu'à 19h.
18h-19h. 100% Synthé. 100% Synthé. Jérémy Marillet.
Avec nous autour de la table ce soir, ils sont deux. Michel Roux, déjà journaliste, commentateur également des matchs des Verts sur la chaîne du club, la SSTV. Bonsoir Michel.
Bonsoir à tous et à toutes.
Vous avez encore de la voix, un peu plus que moi.
Ouais, mais j'avais la voix cassée quand même. Dimanche matin, c'était le réveil n'était pas douloureux puisqu'on avait pris 3 points. Et comment et dans quelles conditions? Mais c'est vrai que ouais, on s'est cassé la voix avec grand plaisir.
On s'est cassé la voix, lui aussi a cassé sa voix lors du match. Il était à côté de moi en tribune, Joris Sabine, envers et contre tous. Salut Joris.
Bonsoir Jérémy, bonsoir à toutes et à tous. J'ai failli tout casser, ouais, la table.
Oui. C'est vrai que je me suis retourné un moment, vous étiez sur ma droite, je voyais vos yeux exorbités sur le second but de Cardona.
Ouais, je savais pas trop où j'étais là. Je vous avoue que je l'avais pas vu venir celle-ci quand à la 90e minute, on avait 7 minutes de temps additionnel que les Verts sont menés 1-0. Je voyais pas les Verts gagner ce match de buts 1, mais c'est mon plus grand bonheur en tout cas qu'ils l'ont fait.
Je crois que vous m'avez sauté dessus d'ailleurs.
Oui, ça
m'avait fait bien peur.
Si le micro est cassé, vous me ferez passer la facture.
Oui, mais elle est en cours de rédaction en ce moment. Ne vous inquiétez pas. Bon, les images, les bruits de ce match de folie contre Bordeaux, on les a tous encore en tête, mais il y a un nouveau match dès demain. On va commencer par ça dans 100% Synthé, le deuxième rendez-vous dans cette semaine à 3 matchs, peut-être décisive pour aller chercher la montée en Ligue 1 pour l'AS Saint-Etienne. Les Verts vont à Grenoble pour la 34e journée de Ligue 2 ce mardi. Le groupe de 18 joueurs de la SS pour ce déplacement a été dévoilé il y a un tout petit peu plus d'une heure maintenant. Et on a un seul changement, l'absence suspendue de Michael Nadé, expulsé face à Bordeaux, et le retour de Denis Sapia que l'on n'avait plus vu depuis le match face à Auxerre début mars, victime d'une blessure musculaire à une cuisse. Denis Sapia, il est donc de retour et c'est la principale information sur ce groupe, Michel.
Oui, c'est un sacré plus pour, bon, dans un premier temps sans doute pour le banc. Dell'Oglio répète à l'envi qu'il a besoin d'un groupe concerné et étoffé, et que la décision viendra souvent du banc avec des joueurs de la trempe de Denis Sapia. Ben là, il a un atout supplémentaire dans son jeu et c'est vrai que c'est un vrai plus. Denis Sapia, c'était l'un des joueurs, enfin c'était, je pense, même le joueur le plus utilisé jusqu'à ce fameux match contre Auxerre. Il a pris le temps de bien se soigner, 5 voire 6 semaines, il sera sans doute pas dans le 11 de départ, mais sur cette dernière ligne droite, il va beaucoup nous apporter.
Un retour important, celui de Denis Sapia, Joris.
Ouais, un vrai plus dans la fin de saison, surtout que c'est un joueur polyvalent. On voit que Michael Nadé est suspendu pour au minimum un match, voire peut-être deux. Denis Sapia, c'est un joueur qui peut éventuellement assurer l'intérim dans l'axe, donc c'est important en cas de méforme par exemple d'un Anthony Briançon. On sait qu'il est un peu juste physiquement parfois, le capitaine Stéphanois, dans cette fin de saison, donc c'est une super bonne nouvelle pour Olivier Dall'Oglio qui va pouvoir aussi faire jouer la concurrence à ce poste-là. On sait que il y a quelques semaines, son équipe type c'était Ivan Masson à gauche et Denis Sapia à droite. Je suis assez d'accord avec Michel, je vois pas Denis Sapia commencer demain. Je pense qu'on va être prudent, de la même manière que Olivier Dall'Oglio l'a fait avec Ibrahim Awadji. On va pas le lancer tout de suite, Denis Sapia, mais par contre ça fait une solution de plus, ça fait une solution sur les côtés où les Verts n'en ont pas beaucoup cette défense. Donc non, c'est une super nouvelle. Et au-delà de l'aspect footballistique, je pense que Denis Sapia, c'est un mec dans le groupe qui apporte énormément. Et l'avoir demain du côté de Grenoble ne sera qu'un plus.
On l'a vu au Port-Pelouse après le match face à Bordeaux. Denis Sapia venir saluer le public avec les joueurs. Une sorte de petit manteau, mi-costume, mi-manteau. Denis Sapia, très élégant, Denis Sapia. Mais ça va faire plaisir de le voir.
On sait que c'est vous, le spécialiste mode de 100% Synthé, Jérémy.
Oui, j'ai une autre noté.
Quelle note
10 sur 10 pour 10 Denis Sapia. S'il nous écoute, félicitations. Non, mais c'est vrai, Michel, trêve de plaisanterie, ce retour de Denis Sapia, de par son expérience, même s'il n'est pas titulaire de suite, c'est important.
Oui, il a quand même un sacré pédigré, hein, de Monaco à Nantes, entre autres. Effectivement, comme le dit Joris, de façon très, très juste et très pertinente, il est capable de jouer un petit peu sur tous les postes de la défense, et notamment en défense centrale. Et là, on sait qu'on a probablement on a trois joueurs qui se bagarrent pour être parmi les deux titulaires. Michael Nadé, on peut penser qu'il va prendre un minimum deux matchs fermes. Le rouge automatique plus le sursis qui va tomber, en espérant que ça se limite à ça. Je pense que ça va se limiter à ça, mais bon. Anto Briançon, il a aussi quand même quelques pépins physiques, et quand il rentre, il s'économise pas, il se donne à 150% de ses moyens, donc il faut faire tourner. Batoubi Sinka va rentrer forcément demain. On sait qu'en défense centrale, on est sujet à prendre pas mal de cartons, donc c'est vrai que c'est bien d'avoir une solution supplémentaire, et tant dans l'axe que sur le côté. Et franchement, voilà, c'est comme Ibrahima Wadji devant Denis Sapia. C'est un joueur respecté qui apporte son expérience, son vécu et sa qualité de footballeur. Donc franchement, là, dans la dernière ligne droite, c'est un vrai plus.
Le retour de Denis Sapia, donc, dans le groupe des 18 joueurs de l'AS Saint-Etienne pour aller défier demain Grenoble lors de la 34e journée de Ligue 2. C'est le seul changement. Denis Sapia de retour à la place de Michael Nadé, suspendu. Et c'est une information aussi que ce soit le seul changement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pépin physique chez les Verts depuis ce match face à Bordeaux. Et dans la gestion de cette semaine à trois matchs, ça aussi, c'est quelque chose de rassurant, Joris.
Ouais, c'est quelque chose de rassurant parce que là, les matchs vont s'enchaîner. Et on sait que s'il y a pépin, notamment musculaire, comme ça concerne Ibrahim Sissoko, c'est souvent minimum 2 à 3 semaines. Et 2 à 3 semaines, à l'instant T, c'est presque une fin de saison. Donc on espère que les Verts vont pouvoir tenir là dans ce sprint final et qu'il n'y aura pas de gros pépins. Parce qu'on le voit, hein, c'est à flux tendu, hein, au niveau du groupe. Dès qu'il y a un absent, ça se ressent directement. On a vu l'absence d'Ibrahim Sissoko, pas forcément prévue face à Ajaccio. On l'a payé cash devant, il y avait beaucoup moins d'animation. Là, on a pu un peu plus travailler, je pense, du côté d'Olivier Dalloglio. L'animation offensive était tout autre face à Bordeaux en ayant les mêmes joueurs, mais on voit que ça avait travaillé, qu'il y avait des automatismes. Donc là, on espère que ce groupe-là va pouvoir aller au bout, et en espérant même une belle surprise, pourquoi pas un Ibrahim Sissoko dans les derniers matchs, si on en a besoin, ça serait une vraie belle surprise.
Mais c'est vrai qu'on l'a pas signalé, mais il n'est pas dans le groupe, évidemment.
Il n'est pas dans
Ibrahim
le groupe,
Sissoko,
hein,
toujours absent.
Donc voilà, il faut espérer que tous ces joueurs-là arrivent à bien se gérer, mais c'est très difficile, comme le disait Michel, parce que dans des matchs comme ça, il faut à la fois se gérer pour essayer de pas se blesser, mais à la fois on a envie de rentrer à 150% et de tout casser. Donc il faut arriver à connaître son corps et mettre juste ce qu'il faut pour être performant.
Il n'y a aucun pépin physique chez les Verts depuis le match face à Bordeaux. Pour aller défier Grenoble demain, Denis Sapia de retour, Nadé suspendu, Grenoble demain. Mais comment s'y projeter après ce match de folie face à Bordeaux? Les Verts doivent-ils rester un peu dans l'euphorie du moment? Cette question, on va se la poser dans quelques instants dans 100% Synthé.
18h-19h, 100% Synthé, 100% Synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le 6-9, France Bleu Saint-Étienne-Loire. Yann Théroux.
Peut-être que les vacances se poursuivent pour certaines et certains d'entre vous. Vous avez bien raison. Dans le 6-9 France Bleu Saint-Etienne-Noir ce mardi, on va encore s'occuper de vous. Vous bichonnez avec une sélection d'idées de sortie. Un agenda toutes les heures pour vous dire ce qu'il y a à faire dans le coin, dans la Loire, en Haute-Loire. Et puis les offices de tourisme tout au long de cette semaine qui sont en direct à 8h20 pour nous donner leur sélection à eux. Alors rendez-vous évidemment à partir de 6h dans le 6-9.
18h-19h, 100% synthé, 100% synthé, Jérémy Marillier.
Avec toujours Joris Sabi, journaliste envers et contre tous, Michel Roux, journaliste et commentateur des matchs des Verts sur SSTV. On est ensemble jusqu'à 19h dans votre émission Foot 100% Synthé, avec une question, maintenant une interrogation. Après cette incroyable victoire face à Bordeaux samedi de Buzyn dans le Chaudron, les Verts doivent-ils rester dans l'euphorie pour aller chercher la Ligue 1? Sont-ils déjà au contraire passés à autre chose? On a posé la question ce midi à l'entraîneur de la SS, Olivier Dalloglio.
Il faut prendre le plaisir, voilà, après le match, le lendemain du match. Voilà. Et puis bon, déjà ce matin, on a basculé sur autre chose. Voilà. Maintenant, ben, quoi qu'il en soit, cet événement-là, ben, on l'a vécu, on le garde. Ça reste, quoi qu'il en soit, un très bon souvenir. Et puis après, nous, on doit avancer. Effectivement, on a déjà s'est projeté sur le match de Grenoble. dès ce matin, quoi. Voilà. Maintenant, on gère aussi encore la récup. Voilà. Mais on était sur le terrain ce matin et on a fait de la vidéo ce matin aussi sur le match de Grenoble.
Alors on passe à autre chose. Bordeaux, c'était incroyable, c'est vrai. Mais c'est derrière nous, message de l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Olivier Dalloglio. Les supporters des Verts, vous qui nous écoutez, êtes-vous toujours dans l'euphorie ou pas? Appelez-nous 04 77 10 00 10. Nous sommes avec Alain qui nous appelle depuis Saint-Etienne. Bonsoir Alain.
Bonsoir France Bleu.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez à Geoffroy Guichet.
Bonsoir, on vous tous.
Bonsoir. Oui, ça va Alain?
Je me suis prêté pas les bracelets à la santé des matchs.
Ouais.
On vous laisse tous les deux, non? On s'en va. On va faire, vous étiez au match Alain, samedi?
Ah bah, tous les matchs,
ouais, alors quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans le fond toujours ou pas?
Ah bah, le début de match qu'on a eu en prenant ce but, ça les a fait un peu mal. Bon, ils sont bien réveillés après. Et je pense que Cardona, il nous fait du bien cette année.
Cardona, vous avez dit, pardon, j'ai pas entendu.
Oui, Cardona, oui, il nous fait du bien, là. Ils ont fait une bonne recrue. But. J'espère qu'ils vont peut-être le garder à l'aise, ça serait pas mal.
Moi, ouais, ça, c'est une question qu'on aura le temps de se poser à la fin de la saison, effectivement, voilà. Alain, pour l'avenir d'Irvine. Cardona, ça vous donne un mental d'acier pour la fin de saison, ça, Alain, cette victoire face à Bordeaux?
Ce que j'espère, c'est finir les deux premiers. Donc, si on est sûr de monter en Ligue 1. Bon, si on peut être premier, ça serait bien, parce qu'on aurait notre quatrième titre.
On vous entend de un petit peu loin, Alain. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir appelés. On va voir si vous arrivez à vous récupérer. Alain qui nous appelle au 04 77 10 0 0 10. On sent avec ce message d'Alain l'émotion des supporters stéphanois qu'on a tous ressenti après ce match face à Bordeaux. Est-ce facile de passer à autre chose aujourd'hui? Il y a déjà ce match demain face à Grenoble. On passe à autre chose. Message affirmé par Olivier Dalloglio, l'entraîneur. Je vous sens hésitant, messieurs.
Oui, ouais, parce que c'est vrai que quand il y a un tel scénario, que vous renversez la table et que vous marquez deux buts incroyables, l'euphorie, elle est là. La joie, elle est indescriptible. Mais, encore une fois, c'est qu'une marche. Et que demain il faut pas se prendre les pieds à nouveau dans le tapis, donc il faut quand même gérer cette belle folie et en même temps retomber un petit peu de son nuage, être pragmatique et être très efficace d'entrée dès la première minute à Grenoble, pas laisser les Grenoblois s'installer dans le match. Donc il faut profiter de cette euphorie et de cette pression positive pour enclencher, mais bon, imaginons qu'on en ait effectivement lâché des points contre Bordeaux, le match de demain de Grenoble, il serait presque décisif, ça serait presque un tournant définitif s'il était mal négocié. Donc il vaut mieux avoir cette euphorie et savoir s'en servir pour enchaîner.
L'euphorie et la tête froide en même temps, c'est oui. Le cocktail que vous souhaitez
c'est
mettre
ça,
en place.
Oui, c'est un cocktail c'est un petit peu antinomique, mais c'est ça, c'est garder la tête froide et en même temps avoir un petit peu un brin de folie.
Aller chercher un supplément d'âme, cette victoire, elle peut aussi être bénéfique à ce niveau-là. Joris Sabi dans la difficulté, savoir que les Stéphanois peuvent aussi aller chercher au fond d'eux-mêmes quelque chose qu'ils ne pensent peut-être pas avoir.
Ouais, ça, faudra s'en servir forcément. D'ailleurs, c'est la première fois de la saison que les Verts sont capables de retourner une situation. Et dans quel contexte? Là, ils ont retourné un match, personne s'y attendait dans le temps additionnel à 10 contre 11. C'est une vraie performance qu'ils ont réalisée. Ça, c'est sûr qu'il faut le conserver, le garder en mémoire. Parce que c'est une preuve de force mentale dont ont fait preuve les joueurs d'Olivier Dalloglio. Après, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut quand même redescendre un petit peu, parce que là, il y a eu tous ces moments de joie avec le public qu'il faut garder en mémoire. Bien sûr, c'est des moments qui sont magiques à vivre pour les joueurs. Mais à côté de ça, il y a un match mardi qui est encore une fois capital dans cette fin de saison, et je pense qu'il faut vite switcher. Pas oublier, mais switcher, passer à autre chose, parce que ça va pas être facile à Grenoble, et que je me souviens aussi qu'après la victoire face à Angers, en première partie de saison, où les Verts accédaient à la deuxième place, il y avait de l'euphorie, c'était aussi en semaine, et derrière, le week-end, avec la réception du Paris FC, ça avait été compliqué, donc c'est toujours dur, parce qu'il y a une grosse débauche d'énergie, et une vraie fête, une vraie communion avec le public. Il faut garder ces moments en mémoire, mais aussi se reconcentrer sur le terrain, parce que là, maintenant, il y a plus, de toute façon, il y a plus à hésiter. reste 5 matchs, c'est 5 finales.
Et puis l'euphorie, on la relativise juste. On l'a même relativisé de suite en voyant le classement de la Ligue 2. Les Verts sont toujours 3e. Finalement, rien n'a changé par rapport à Angers.
Oui, par rapport à Angers, c'est statu quo. Alors derrière, en revanche, ça se décante. Ça a mis longtemps à se décanter, ce championnat. Quand on était 11e, on n'était pas très loin de la 5e place. 2 voire 3 points maximum. Donc on se disait qu'on était toujours dans le coup et on avait bien raison de continuer à y croire. Aujourd'hui, effectivement, maintenant, ça derrière, Guingamp, Caen, on lâchait des points ce week-end. Bon, c'est vrai que derrière, ça, maintenant, le creuset, le fossé se creuse et pas le creuset se fausse.
Et, c'est joli mais aussi,
en revanche, sur Angers, et ben, on est à touche-touche. Et
devant Auxerre a lâché des points aussi. Donc c'est important parce que c'est quand même, ça reste quand même une lutte à trois. Ces deux premières places, si Auxerre avait gagné, je pense qu'ils avaient un pied en Ligue 1. Là maintenant, ils ont quand même.
C'est plus inaccessible.
Exactement.
Une lutte à trois qui se poursuit. Merci beaucoup, Alain, de nous avoir appelé depuis Saint-Thé. Bonne soirée à vous, Alain.
Oui. Moi demain, je suis à Grenoble.
Eh ben écoutez, parfait. Peut-être qu'on s'y croisera du côté du Stade des Alpes. Bonne route demain,
Alain.
On va reparler de tout ça à la fin de l'émission. Bon, ce match très important contre Grenoble, 34e journée de Ligue 2. J'ai envie de vous dire qu'on aura le temps de s'y pencher demain en détail. Là, j'ai envie qu'on vienne quand même dans 100% synthé sur ce match de Bordeaux, qui, quoi qu'il arrive, restera gravé dans nos mémoires. Cet ASS Bordeaux, est-ce l'un des matchs les plus incroyables que vous avez vécu, vous, supporters des Verts? Venez nous le dire. 04 77 10 0 010. Et avant d'en parler, je voudrais qu'on adresse une dédicace à l'entraîneur bordelais. Albert Riera, lui qui interrogeait après le match sur les échauffourées dans les vestiaires, nous a répondu cette phrase un peu lunaire.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
Eh ben allons donc à Las Vegas. Quelques instants en musique avec Albert Riera et Elvis Presley, 100% synthé. On est ensemble jusqu'à 19h.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
Bright lights, city gonna set my soul.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's 1,000 pretty women waiting out there. They're all living the devil may care.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
So viva Las Vegas. Viva Las Vegas.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas!
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again.
What is happening in Las Vegas? Stay in Las Vegas.
I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, oh well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a 7 with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Elvis Presley en duo avec l'entraîneur de Bordeaux.
Las Vegas, stay in Las Vegas.
Ou un peu de réverb pour accompagner Albert Riera, c'est magnifique. L'entraîneur de Bordeaux en duo avec Elvis Presley. Viva Las Vegas dans 100% synthé, votre émission foot sur France Bleu Saint-Étienne-Loire avec Michel Roux et Joris Sabi. On se replonge jusqu'à 19h dans ce match de folie qu'on a vécu ensemble samedi. 33e journée de Ligue 2, victoire 2-1 de la SS face à Bordeaux. Les Verts menaient 1-0, les Verts réduits à 10 avant un doublé d'Irvine Cardona dans le temps additionnel dans un chaudron bouillant, incandescent comme jamais. J'ai pas. Le chalala après le match avec Mathieu Cafaro notamment au micro pour faire monter l'ambiance. Et avec Isabelle qui nous appelle au 04 77 10 00 10, Isabelle de Boin sur Lignon. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bon, ce match, quelles émotions vous ressentez là encore à l'heure actuelle?
Moi j'en ai pleuré en fait en fin de match parce que j'avais l'émotion des supporters et la victoire, je vous jure j'en ai pleuré. Et quand j'ai regardé les matchs, les buts, c'est pareil.
Vous étiez au stade Isabelle ou pas?
Comment?
Vous étiez au stade?
Non, je me suis pris un peu tard, il n'y avait plus de place. Et pareil pour Caen, je ne pourrais pas y aller. En fait, c'était le dernier match que j'aurais pu faire à Caen. Et du coup, non, je ne pourrais pas y aller parce que les places qui restent sont trop chères pour moi, en fait. Donc, je n'irai pas non plus pour Caen pour le dernier match. Donc, parce que je ne serais plus dans la Loire, je serais dans le centre de la France, donc pour les derniers matchs. Donc, voilà.
Vous suivrez sur France Bleu. Voilà, ce sera très bien.
Magnifique commentaire de Jérémy.
J'ai eu de la peine pour votre voix, d'ailleurs.
C'est gentil, Isabelle. Merci. Ça va un petit peu mieux quand même. Ça va un petit peu mieux.
Voilà. J'ai pensé à la chanson de Casser la voix de Bruel en vous écoutant. C'était un truc de ouf, en fait. Mais bon, c'est bien parce que vous avez mis la dynamique et on était avec vous. On vivait le match avec vous, en fait.
Bon, voilà. Bah, écoutez, donc, si on arrive à transmettre la passion que mettent les joueurs sur la pelouse, c'est l'essentiel. Vous, messieurs, pour rebondir ce que nous dit Isabelle sur le match, quelles émotions vous avez ressenties? Est-ce que c'est l'un des matchs les plus émotionnellement, les plus fous dans votre mémoire récente de l'AS Saint-Etienne, Joris, Michel?
Ouais, dans la mémoire récente, ouais, ça fait partie des plus fous. Après, il y a eu des très belles émotions sur les dernières années également. Je repense notamment à un match de Coupe d'Europe face à Bâle à domicile qui avait été incroyable avec une victoire à 3-2. Mais c'est vrai que celui-ci, retourner un match dans le temps additionnel comme ça, ça faisait longtemps. Il y en avait eu un assez récemment, celui face à Clermont en Ligue 1 où on perd 2-1, on gagne 3-2 à la fin, pareil dans le temps additionnel, mais il n'y avait pas les copes.
Ouais, c'était à huis clos.
C'était, ouais, c'était même à huis clos.
C'était Tristounet, ouais.
Donc c'était pas du tout pareil, il n'y avait pas cette tension. Un des derniers qui m'avait fait penser à ce match-là, c'est le derby où Cazerie égalise à la dernière seconde. Là, il y avait eu vraiment les mêmes sensations.
Et un autre derby avec le but de Robert Béric pour la première de Claude Puel. Dans l'histoire récente, en plus un but magnifique, on le voit venir de loin, ce centre.
Il y a eu un peu pareil d'ailleurs, ce chaudron qui s'arrête pendant 3 secondes, qui attend que le ballon rentre dans le but. C'est vrai qu'on a ressenti un peu la même chose que lors du but de Béric, mais c'est pas souvent.
C'est assez rare, oui, finalement. C'est beau, c'est ça qui est beau aussi dans le football, c'est de pouvoir vivre des moments comme ça.
Alors c'est vrai que dans la grande histoire de Saint-Etienne, mais là, Jérémy, vous évoquez l'histoire récente, il y a plein d'autres exemples, mais c'est vrai que ça remonte à vieux, et ça participe de la légende et de la notoriété de Saint-Etienne. Mais c'est vrai que dans l'histoire récente, moi je me souviens aussi d'un match, je crois, qu'on avait gagné 4-3. On était mené 2-1.
Oui, c'est Angers.
Avec un but
d'Amouma, la dernière
frappe détournée. Voilà. Mais bon, c'était, entre guillemets, ce n'était que Angers. C'était pas un match aussi important. Là, c'est quand même Bordeaux. C'est-à-dire Bordeaux, même s'ils sont 13e, 14e, ça reste c'est un cadeau du football français. Et vraiment, et puis surtout, on était réduit à 10.
Ouais, il y a tout.
Voilà, là, ces autres matchs, on était aussi, 11 contre 11. Là, il n'y a pas de coup, il n'y a pas un coup de pouce de l'arbitre, il n'y a pas un but, une frappe détournée comme à Mouma. 10 contre 11. Contre une équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, qui n'était pas à la rue, c'était pas un zéro complètement contre le cours du jeu, il tenait bien le ballon, c'est fort.
Ouais. Après la défaite il y a 10 jours à Ajaccio, on voulait être rassuré, on attendait d'être rassuré à l'AS Saint-Etienne. Vous, ce match, Isabelle, ce scénario fou, ça vous rassure? Ça vous rassure aujourd'hui pour la suite de la saison?
Ça me rassure parce qu'en fait, ils se sont mis les tripes à nu, en fait. En fin de compte, ils ne se sentaient pas. Je pense aussi que peut-être que la sortie de Nadé a peut-être fait en sorte que ils se sentent plus forts, enfin, pas plus forts parce qu'il est sorti, mais je veux dire c'est que il fallait pas le perdre ce match, et puis et le premier but de Cardona a peut-être justement délivré cette équipe, et ils en ont voulu plus, et peut-être que Cardona marquait le deuxième qui a été délivreur, en fait.
Est-ce que c'est ce que nous dit Isabelle Pardon Isabelle, j'ai envie de faire rebondir là-dessus Joris et Michel. Est-ce que la sortie de Nadé a peut-être fait basculer ce match dans l'irrationnel au final?
C'est intéressant parce qu'en fait, j'ai lu un commentaire là-dessus sur Envers contre tous tout à l'heure. Est-ce que si Mikel Nadé n'avait pas été expulsé, est-ce qu'il y aurait eu cette fin de match? Personne ne le sait, bien évidemment.
Mais c'est vrai que ça
participe en fait à cette fin de match exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a un vrai groupe. Les Verts, ils perdent un de leurs coéquipiers et derrière, ils ont envie aussi de le faire pour lui. et Irvine Cardona qui égalise. Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'attitude derrière, de vouloir aller chercher cette victoire. N'importe quelle autre équipe, et même la Saint-Etienne d'il y a quelques semaines, se serait peut-être contenté de ce match nul. Bah non, là, on a voulu aller chercher cette victoire. Et puis derrière, je pense aussi ce qui participe à ces émotions, c'est que le deuxième but d'Irvine Cardona, il est incroyable. Il est exceptionnel, ouais, ce but.
Ce but de Cardona, la prestation d'Irvine Cardona, on va en parler dans un instant dans 100% Synthé. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir appelé. Et soyez présente avec nous à l'antenne pendant les matchs, les prochains matchs, alors, Isabelle.
Ah oui, il n'y a pas de souci. Bah, je vais déjà vous écouter demain soir.
Bah oui, mais voilà, appelez-nous aussi, ça nous fait plaisir. Allez, bonne soirée à vous.
Il n'y a pas de souci, je vous appellerai. Il y a votre
bonne soirée à vous, Isabelle. Merci beaucoup, 100% Synthé. Continuons, on est ensemble jusqu'à 19h.
100% Synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.
France Bleu soutient les nouveaux talents de la scène musicale française.
Découvrez Paper Moon.
Éric Bastien.
La lune poivrée. C'est mignon et poétique, c'est un duo composé par Pierre et Iris. Lui, il compose, il arrange et elle apporte sa voix plutôt sucrée à ses mélodies. Ils sont connus en Asie, ils ont un vrai public francophile là-bas, mais ils ont envie de conquérir la France avec un album, 12 titres, à découvrir dès ce soir.
La nouvelle scène musicale. Découvrez les artistes de demain sur France Bleu, chaque soir, dès 20h.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Saint-Étienne-Loire, ici, on parle d'ici.
À 18h32, dans 100% Synthé, coup d'œil à vos conditions météo, un temps sec ce soir et cette nuit pour la Loire et la Haute-Loire, temps sec également avec des éclaircies qui vont se généraliser dans nos deux départements dans l'après-midi de ce mardi. Température toujours aussi fraîche en réveil, zéro demain matin par exemple à Saint-Bonnet-le-Château, pareil à Issingeau, deux petits degrés à Saint-Étienne et au meilleur de la journée, comptez 4 pour les minimales du côté d'Issingeau, 7 à Monistrol, 8 pour Synthé, jusqu'à 10 dans la plaine du Forêt. Les conditions de circulation avec aucun gros problème à vous signaler. Hein, c'est quasiment vert sur nos cartes partout, tout autour de l'agglomération stéphanoise sur les principaux axes. Pareil sur l'autoroute A72, pareil sur l'A47. Si vous venez de la région lyonnaise ou si vous souhaitez rejoindre Givor.
18h-19h, 100% Synthé, 100% Synthé, Jérémy Marillet.
Avec Joris Sabi et Michel Roux, on continue de revenir sur cette incroyable victoire de Nevers samedi lors de la 33e journée de Ligue 2. Victoire 2-1 face à Bordeaux dans un chaudron bouillant, scénario renversant, avec un joueur qui a fait chavirer tout le peuple vert à la 95e minute de jeu.
Le chaudron en ébullition, Bentaïg qui avance, Bentaïg entrée de surface, le centre, ça passe, Cardona, ballon piqué, le but, le but, le but, le but, le but. Oh, le ballon piqué, c'est le but de l'année. Oh, je m'évanouis. Oh, s'il vous plaît,
aidez-moi. Ouais, je me suis pas vraiment évanoui, mais j'étais pas loin.
Oh, la fake news diffusée en direct sur France Bleu Saint-Etienne.
Bon, une fake news, mais un but de Cardona, c'est le principal, le but de la victoire. J'emploie volontairement le terme de renversant pour évoquer Irvine Cardona, parce que je repense quand même à cette occasion en première période.
Avec le centre de Cafard au deuxième poteau, aime beaucoup de la tête, Cardona, à côté, il rate l'immanquable. Cardona tout seul face au gardien, le plat du pied, sécurité, mais non, pas du tout sécurité, le ballon qui longe le poteau gauche de Johnson et qui passe à côté.
Cardona maudit pendant 90 minutes quasiment, héros finalement de ce match. Que dire, Michel?
Eh ben déjà que dire, que déjà les commentaires peu amènes qu'il avait escorté lors de ses premiers matchs, eh bien une fois encore, il faut que certains apprennent à réfléchir deux fois avant de parler trop tôt. Parce que je me souviens des 3-4 premiers matchs où effectivement il n'avait pas trouvé le chemin des filets. Il avait joué à peine une heure en 6 mois. Donc quand on a fait un petit peu de sport, même pas à un haut niveau, on sait que quand même le rythme, ça revient pas comme ça en claquant des doigts. La confiance encore moins quand on est attaquant et qu'il faut être un petit peu indulgent et patient. On l'a été au club, Olivier Dalloglio l'a été. Irvine Cardona, il a refait ses gammes et depuis quand même 2 mois et demi, il est au-dessus du lot, mais c'est absolument impressionnant. Je crois que c'est 8 buts.
8 buts en 14 matchs ou 15 matchs.
Et combien de passes décisives.
Deux passes décisives.
Sans tirer les pénalties. en étant un danger quasiment constant. Alors certes, là, il a loupé une grosse occasion, mais son deuxième but, non mais c'est un but... Moi, j'ai qualifié ce but de but PlayStation. On a l'impression qu'on appuie sur le bouton lob et que le ballon, comme avec une main, il vient se loger là.
C'est vrai, j'en ai vu quelques-uns à FIFA, des comme ça.
Ouais, voilà, peut-être, ouais, bah,
dans FIFA. La vraie vie aussi, j'en risque pas.
Non, non, à FIFA, un but PlayStation.
Voilà, hein, moi, je suis pas. C'est...
Moi, je... Donc, non, voilà. Ce second but, Michel, voilà, nous parlait de ce joueur Cardona qui a pris un petit peu de temps pour trouver ses marques, il les
oui,
a pris
c'est
désormais.
C'est légitime.
Quand on le voit là, enfin, c'est pas un joueur de Ligue 2, j'aurais
essayé. Complètement, mais ce deuxième but, en fait, il est exceptionnel parce que si on reprend tout, c'est la 95e minute du match. Cardona a joué les 95 minutes. Un geste comme ça, c'est un geste plein de lucidité. Comment à la 95e minute, alors qu'on est réduit à 10, donc c'est-à-dire qu'il doit faire plus d'efforts, un joueur, un attaquant peut avoir cette lucidité-là pour placer
un ballon comme ça dans la soirée. Je me serais évanoui moi à 95e minute.
Un ballon comme ça, je pense que 90% des joueurs, ils envoient une lourde. En vrai, non, mais c'est la vérité.
Soir, ouais.
Et en vrai, ça aurait pas été la bonne solution parce que le gardien bordelais, il y en a qui le critiquent. Moi, je trouve que ce but-là, il sort très bien justement. Mm-hmm. Il offre que cette solution à Cardona.
Il bloque ses côtés.
La solution, c'est au-dessus de lui. Mais allez, il faut tellement bien la toucher pour qu'elle rentre, sachant qu'il y a deux défenseurs qui reviennent sur le coup. C'est un geste qui est exceptionnel. Et pour revenir à la forme d'Irvine Cardona, on en avait parlé à son arrivée, et notamment nos confrères de Brest On Air qui nous avaient dit, si vous récupérez le Cardona du Stade Brestois, c'est un joueur Ligue 1. Ce sera un joueur Ligue 1. Par contre, si vous récupérez l'Irvine Cardona qui n'est pas en confiance, qui a un peu le moral dans les chaussettes, ça va être compliqué. On a eu 2-3 matchs, l'Irvine Cardona en manque de rythme parce qu'il n'avait pas joué à Augsbourg, et depuis qu'il a marqué ce doublé face à Angers qui a été le véritable déclic pour lui, ce n'est pas un joueur de Ligue 2, et on le voit à chaque match que ce n'est pas un joueur de Ligue 2.
Alors pour se projeter sur la suite, Michel, peut-être Irvine Cardona, voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde le savait, tout le monde l'a vu encore une fois, ce sera l'attaquant le plus surveillé de Ligue 2 peut-être dans cette fin de saison, il va falloir trouver des parades aussi.
Oui, bon, lui-même peut en trouver, il y aura aussi quelques alternatives, notamment avec le retour de Wadji, le retour sans doute peut-être pour Rodez de Ibra Sissoko, ça va tourner, ça va permettre à tout le monde d'avoir du temps de jeu et de récupérer un petit peu de fraîcheur, mais Irvine Cardona, là je crois que les deux derniers mois il a été élu joueur du mois. Là, avec ce qu'il a fait samedi soir contre les Girondins,
la passe de 203,
elle est pas loin. Ce que vous dites est très juste. C'est pas un joueur de Ligue 2. Et nous, on n'est pas un club de Ligue 2 non plus.
Mais à souligner voilà. que Cardona réalise peut-être la partie de saison la meilleure de sa carrière, parce que pour avoir étudié un peu ses stats, il a jamais eu de telles stats sur toute une saison. Là, il a 8 buts en 14 matchs, c'est exceptionnel. Ouais. Et dans un entretien qu'il a confié à nos confrères du Dauphiné, il dit qu'il a jamais joué dans une ferveur telle à l'AS Saint-Etienne. Et je pense que voilà, il se régale à l'AS Saint-Etienne, Irvine Cardona.
Irvine Cardona se régale, et je sais pas vous, moi, son second but face à Bordeaux, ça m'a fait penser à un but d'Eric Cantona.
C'est vrai.
Avec Manchester en 96, un petit ballon piqué comme ça aussi face à Sunderland. Cardo, le canto stéphanois. Allez, je m'emballe peut-être un peu en disant ça. Mais ça me donne envie d'aller à Manchester quelques instants dans 100% synthé avec l'un des groupes de rock mythiques de cette ville anglaise, Oasis, Don't Look Back in Anger. Les notes, les tops, les flops de ce match face à Bordeaux. On y revient dans 100% synthé juste après ce petit crochet mancunien. On est ensemble jusqu'à 19h. We'll be right back. Oasis dans 100% Synthé sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Oasis, groupe mythique de Manchester, là où a joué le Cardona de Manchester, Eric Cantona. Il faut que j'arrête de m'emballer, hein, c'est
ouais, ça. Ouais.
Cardona, Cantona, c'est...
Oui, voilà,
ça arrive,
Maradona,
ça
arrive avec beaucoup de joie. Chalala. Chalala, oui, effectivement. Bon, jusqu'à 19h avec Joris Sabi, des ventes avérées contre tous, Michel Roux, journaliste, commentateur des matchs des Verts sur SSTV. On continue de débriefer cette victoire de folie de la SS samedi lors de la 33e journée de Ligue 2. Victoire 2-1 face à Bordeaux, doublé d'Irvine Cardona, 18h42. On passe aux notes. Les notes que l'on peut donner après chaque match sur le site d'Anvers et contre tous. Bon, on va rapidement dire la note d'Irvine Cardona parce qu'on imagine que c'est le top de cette rencontre et puis on détaillera peut-être d'autres joueurs dans la foulée. Joris Sabi, quelle est la note sur 10 d'Irvine Cardona?
C'est le top Irvine Cardona chez les supporters. Il obtient la note de 8,8 sur 10, ce qui est très rare.
Est-ce que c'est la meilleure note de la saison, ça?
Eh ben, j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'on doit pas en être loin parce qu'il me semble qu'on avait eu cette discussion, ouais, Jérémy, il y a quelques temps
avec Larsonneur, mais Larsonneur, je sais plus sur quel match.
Il me semble qu'il était à 8,6 ou 8,7. Donc, je suppose que c'est la meilleure. Ce qui serait pas étonnant parce que là, le match, il tourne. Grâce à lui, mais par contre ce qui est marrant c'est que je serais curieux d'avoir, mais on l'aura jamais, la note que les supporters auraient donnée sans ces deux buts, parce que forcément on juge un joueur à ses statistiques, surtout un attaquant, et là il est clairement jugé sur ces deux buts, mais comment lui mettre en dessous? Nous on lui a mis 8 avec la rédaction d'Évêque, on a hésité avec le 9. Mais
en repensant à ses actions peut-être d'avant.
Ouais, voilà, mais ça aurait presque pu être 9 sur ce match-là.
Ouais, complètement. Irvine Cardona, le top, donc 8,8 sur 10 sur le site d'Anvers et contre tous. À la deuxième marche du podium, Michel Roux, vous metteriez qui, tiens, si vous deviez choisir sur ce match-là?
Anto Briançon,
ouais, le capitaine pour son retour.
Ouais. Franchement, il était ennuyé ces derniers temps par pas mal de pépins. Il y avait aussi la concurrence nouvelle qu'avait instauré Mikael Nadé. On pensait pas qu'il puisse bousculer la hiérarchie dans l'axe. C'est un mec qui vit les matchs à 300% et qui les vit pas bien quand il débute sur un banc. Hein. Ça, c'est clairement pas quelqu'un qui est indifférent à son statut. Il veut l'assumer, il veut montrer l'exemple, et je pense qu'il l'a montré par sa grinta. On sait que c'est un joueur qui lâche rien. Et je pense à deux dernières interventions dans le dernier quart d'heure qu'il a faites. Un ballon où il se jette à l'entrée de la surface, où il sort le ballon.
Tacle aérien à l'entrée de la surface.
Derrière, c'est le ballon repasse, c'est un contre un.
La note d'Anthony Briançon, est-ce qu'il est sur le podium, Joris, des notes sur Anvers et contre tous?
Il est sur le podium, mais il n'est pas sur la deuxième marche. Il est sur la troisième, mais ça ne se joue à rien. Et c'est avec Gauthier Larsonneur qui prend la deuxième place.
Gauthier Larsonneur, deuxième.
Ouais, bah, de toute façon, Gauthier Larsonneur est toujours très bien noté.
Ouais. C'est l'un des chouchous. Ouais.
Et c'est vrai que moi, ça m'étonne un petit peu. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais sur l'action dont vous parlez de Briançon qui sauve, il se manque un peu quand même sur sa sortie côté Larsonneur, ce qui aurait pu coûter cher à la Saint-Étienne.
Ouais, ouais.
Par contre, moi Larsonneur, j'ai adoré sa mentalité
sur
le deuxième but.
L'envie d'aller chercher,
alors même si son dégagement il monte très haut, c'était pas non plus un cadeau pour Ibrahim Awadji, mais cette volonté de vouloir à 10 contre 11 aller chercher la victoire, ça j'ai adoré. Et si j'ai envie de le voir plus souvent, c'est l'ambition en fait, et c'est si la Saint-Etienne va avoir de l'ambition, il faut aussi des joueurs comme ça.
Cardona, la meilleure note sur Anvers et contre tous pour ce match face à Bordeaux, Larsonneur deuxième, Briançon troisième. Briançon, le choix un peu de Michel Roux.
Exactement. Et si je peux me permettre, il y a même un acteur de cette rencontre qui se glisse.
Non, vous ne pouvez pas vous permettre.
Si, je peux me permettre quand même, à ce micro, j'y suis assez souvent. Non, je me permets parce que c'est Olivier Dalloglio qui se glisse entre tous ces hommes-là, et il est deuxième. Et je suis assez d'accord pour le coup là, avec les internautes, nous on lui a mis 7 avec Évêque, il a eu 6,7 de la part des internautes, parce que je trouve que tous ces changements ont été bien sentis à Olivier Dalloglio. Il a amené ce qu'il fallait. Et les entrants lui ont bien rendu.
C'est vrai. Alors, si je peux me permettre, moi aussi, parce que je suis régulièrement à ce micro, je sais pas si vous me permettez.
On n'a pas le temps.
Non, mais un joueur comme Thomas Monconduit, je sais pas, sur ce match-là, alors ça fait débat souvent, Thomas Monconduit, mais j'ai trouvé encore une fois qu'il avait apporté quelque chose. Il est à l'origine de l'un des buts dans les arrêts de jeu. Il a dépanné en défense centrale. Je sais pas quelle note a Thomas Monconduit.
Alors, Thomas Monconduit, ça a pas trop fait débat pour le coup, puisque les supporters lui donnent 5,4, le Progrès 5 et nous 5. Également. Je suis assez d'accord, il apporte sur le premier but dans ma tête, sur le moment, c'est Dylan Chambaud qui fait cette passe. la ligne, pour... et c'est Thomas Monconduit. Donc là-dessus, c'est clairement un geste décisif, même si Cardona derrière fait le travail. Mais par contre, il y a toujours ces petites pertes de balles qui lui font perdre un petit peu dans ce. Mais ça aurait presque pu être un 6 aussi pour lui.
J'aime beaucoup la part de Thomas Monconduit. Voilà, je sais que.
Je pense qu'on était plus près du 6.
C'est vrai que avec cette passe clé, on appelle la passe clé au basket souvent. C'est vrai que ça aurait pu être 6 sur 10 pour Thomas Monconduit.
Je me sens un petit peu mieux, merci beaucoup, messieurs. Allez, les flops, les moins bonnes notes de cette rencontre, on y revient dans un instant dans 100% Synthé.
France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% Synthé, jusqu'à 19h. Qui sera le plus fort, au jeu de Loire?
Toute cette semaine, venez jouer sur France Bleu Saint-Étienne-Loire dans le jeu de Loire de 11h à midi. Commune, événement, lieu, date, personnalité, que ça soit de la Loire ou de la Haute-Loire, c'est à vous de les retrouver avec 3 indices sonores. Repartez toute cette semaine avec vos cartes Illy cadeaux d'une valeur de 50€ pour vous faire plaisir dans les enseignes de votre choix. On vous attend sur France Bleu Saint-Étienne-Loire dans le jeu de Loire de 11h à midi.
18h-19h, 100% synthé, Jérémy Marillet.
Pendant 12 minutes, allez, jusqu'à 19h, on est ensemble dans 100% synthé pour revenir sur cette incroyable victoire des Verts ce week-end de Buzyn face à Bordeaux lors de la 33e journée de Ligue 2. On vient de faire les tops des notes que vous pouvez donner après chaque match sur le site d'Envers et contre tous. Place à l'inverse aux moins bonnes notes reçues par nos joueurs stéphanois. Bon, il n'y a pas vraiment débat pour Erwin Cardona. J'imagine que dans la tête et l'esprit des supporters, il n'y a pas vraiment débat non plus dans la moins bonne note.
Ouais, la moins bonne note.
Mickaël Nadé, on imagine.
Exactement, c'est Mickaël Nadé qui est écope de la plus mauvaise note, ce qui est plus ou moins logique. Il est expulsé, en plus. Il est expulsé, je trouve, sur un acte qui lui est imputable. C'est ce qu'a dit Olivier Dalloglio en conférence de presse. C'est lui, le carton rouge, il est allé le chercher tout seul. Alors attention, on peut l'expliquer ce geste. On a tous joué sur des terrains, on sait la tension qu'il peut y avoir pendant un match, le manque de lucidité. Ça ne l'excuse pas, mais ça peut s'expliquer. Et ça sera pas le premier ni le dernier à prendre d'un carton rouge pour un geste d'humeur. Mais ça aurait pu coûter très cher à l'AS Saint-Etienne. L'histoire et Erwin Cardona en ont décidé autrement. Mais il écope de la note de 2,6 sur 10, ce que je trouve sévère de la part des supporters. Nous, on a mis 3. Ça aurait pu coûter cher. Le Progrès 4, un petit peu plus généreux.
Avec le cas Mickaël Nadé, Michel Leroux. Il y a eu débat après le match. Hein. Ouais. Est-ce qu'il faut pas pardonner, mais allez, mettre de côté un peu ce qui s'est passé. Ou est-ce qu'il faut en prendre en compte et lui dire, Mickaël, c'est une faute professionnelle, tu ne rejoueras plus d'ici la fin de saison. Non, mais on a pu l'entendre.
On entend beaucoup de choses. Il a commis une erreur, comme l'a dit Joris de façon très juste. Il est revenu au moins 3-4 fois. À chaque fois, il y avait un mec qui venait tenter de le calmer. Il faisait le tour, il revenait. Bon, une fois, deux fois, trois fois, il a été patient, hein, Brizard, l'arbitre. Hein. Oui. Il aurait pu lui mettre le carton une bonne minute avant. Et puis à un moment, trop c'est trop. Quoi. Il a pas réussi à recouvrer son calme. Depuis trois mois et demi, il n'est pas tout le monde. On l'imaginait pas à ce niveau-là. Il a gagné sa place alors qu'il était au fond du trou. Et puis là... Ben c'est vrai qu'il gâche. Il gâche. Mais en même temps, tout à l'heure, on avait le débat. Est-ce que c'est pas précisément l'expulsion de Mickaël Nadé qui a été le détonateur de la révolte? Mais bon, on le saura jamais. Mais a priori, c'était pas un plus d'être à 10. Oui, donc il est quand même, il est clairement fautif.
Mickaël Nadé, la moins bonne note. Mickaël Nadé qui a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux suite à son expulsion. Mickaël Nadé, la commission discipline ne s'est pas encore réunie sur son cas. Deux matchs de suspension, sont plutôt tablé du côté de l'AS Saint-Etienne pour Mickaël Nadé.
Oui, après, quand on revoit les images, il y va plusieurs fois, c'est ça qui d'ailleurs qui lui fait avoir un carton jaune. Il n'y a pas de coup, il n'y a pas de poussette, il n'y a pas de... Franchement, ça serait très dur pour moi que ce soit plus que deux matchs.
Mickaël Nadé, la moins bonne note face à Bordeaux. Sur le podium des moins bonnes notes, Joris Sabillon, on retrouve qui?
Eh bien, il y a un seul deuxième joueur qui n'a pas la moyenne, c'est Léo Petro, le latéral gauche de l'AS Saint-Etienne, qui est écope d'un 4,5 chez les supporters. Nous, on a été plus clément, on lui a mis 5. Ouais.
Est-ce que c'est pas le but bordelais où il détourne le ballon qui influence un peu cette note-là?
Peut-être, mais alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, il y est quasiment pour rien. Je veux dire, je le trouve pas mal placé sur l'action. Il y a une frappe, elle lui arrive sous le ventre. Il peut pas l'éviter. Hein, donc c'est très compliqué.
C'est
dans
sévère de ne pas mettre la moyenne à Léo Pétro sur ce match-là.
Ouais, je trouve qu'on lui demande beaucoup. Bon, moi c'est peut-être ma nature, mais j'essaie toujours d'être indulgent et de. Franchement, Léo Pétro, il fait ses matchs. C'est pas un top joueur. Il le sait. Il en a conscience. Il est lucide. Il se bat avec beaucoup de d'engagement, beaucoup d'altruisme. Il tire pas la couverture à lui, et je trouve que sincèrement, par exemple sur le but qu'on a encaissé, bon, il est malheureux. Mais alors pour le coup, c'est Mickaël Nadé qui, entre autres, alors là, il est très clairement fautif parce qu'il a été très très lent à prendre une décision pour aller couvrir là-bas. Je crois que c'est Vipotnik, et il lui a laissé le temps d'aller chercher ce ballon, de se retourner. Léo Pétro, je pense qu'il méritait la note de 5.
Léo Pétro donc n'a pas la moyenne, tout comme Mickaël Nadé. Est-ce qu'il y a quel autre joueur a la moyenne donc, mais complète le podium des moins bonnes notes?
Ils sont deux milieux de terrain, Mouefek et Chambaud, qui sont à 5,1 tous les deux. Ouais.
C'est vrai que le milieu de terrain stéphanois, Ayman Mouefek, Dylan Chambaud, alors peut-être allez, Ayman Mouefek s'il faut parler d'un des deux joueurs, a sans doute été décevant sur cette rencontre-là, messieurs.
Ouais, sur cette rencontre, moi je l'ai pas trouvé. C'est clairement pas son meilleur match, Ayman Mouefek, sur le maillot stéphanois. J'oublie pas que ça part un peu de lui aussi, cette histoire de carton rouge. C'est lui.
Oui, c'est vrai.
Après, ça part de lui, mais c'est le Bordeaux qui vient le
Pitou.
Ouais, voilà, exactement, qui vient vers Ayman Mouefek. Mais donc du coup, ça part un peu de ça. Et j'ai trouvé qu'Ayman Mouefek, et c'est pas habituel, il a fait preuve techniquement de quelques faiblesses. C'est pour ça, c'est pas habituel, c'est pour ça que ça m'a surpris, parce qu'Ayman Mouefek, c'est quand même un joueur qui est même capable des fois dans la surface de faire des différences. Je l'ai trouvé un peu en dessous sur ce match là mais parce qu'il nous a habitué à tellement mieux sur tout ça, en fait.
Des joueurs un peu moins en vue, allez, peut-être au milieu de terrain, un Ayman Mouefek, un Dylan Chambaud, est-ce que ça vous amène à réflexion pour le prochain match face à Grenoble, de voir des joueurs comme ça qui peut-être moins en vue?
Je pense qu'ils ont aussi souffert du système mis en place par Riera, qui a fait qu'on a l'entrejeu on a souffert, que Pedro Diaz il s'est baladé avec une facilité déconcertante parce qu'il jouait avec deux excentrés qui bouffaient la ligne, et Nsimba et Michelin ils nous ont fait beaucoup beaucoup de mal devant. Ils étaient présents, Pedro Diaz il a régalé dans l'entrejeu, mais c'était simple pour lui, c'est un joueur qui a une grosse capacité technique à garder le ballon, à jouer juste, et là il avait un temps inouï pour prendre les décisions, mm-hmm. On le voit sur le but, il a le temps de contrôler, de frapper, bon après il a la réussite. Je pense que là c'est vrai que le système qu'avait mis en place Riera, et qui a quand même bien fonctionné, a mis en difficulté notre milieu.
Mm-hmm. Est-ce que vous feriez des changements contre Grenoble au milieu de terrain, Joris, Michel?
Plus que par les performances qui ont peut-être été un petit peu en dessous face à Bordeaux au milieu de terrain, moi c'est plutôt l'enchaînement des matchs qui me poussera à faire des changements. Et ouais, j'en ferai pour le coup. Je pense qu'il va en faire, Olivier Dalloglio. C'est la partie, enfin en tout cas le poste où il dispose le plus d'armes. J'ai bien aimé l'entrée, alors même si c'était pas vraiment au milieu de terrain, de Benjamin Bouchouari. Je trouve qu'il apporte beaucoup ses entrées en jeu. Face à Ajaccio, titulaire, ça n'avait pas été très bon, mais je pense qu'il mériterait quand même une seconde chance en tant que titulaire. Et je pense qu'un Flo Tardieu peut aussi permettre à Thomas Moncondu de souffler. Donc pourquoi pas voir ces deux joueurs rentrer dans le 11 de départ face à Grenoble. Et encore une fois, ce ne sera même pas une sanction pour Mouefek et Moncondu, qui pourraient être réalignés dès le match face à Caen. Mais il y a trois matchs dans une semaine. Je pense qu'il faut économiser les forces, et on a la chance d'avoir quand même un groupe étoffé où les joueurs sont un peu interchangeables.
Ouais, c'est ça, il y a cette gestion à avoir en tête aussi, forcément, Michel, notamment au milieu de terrain.
On a 17-18 joueurs de niveau sensiblement égal, donc les remplaçants, ils jouent pleinement leur rôle, et si ils font pas la tronche d'être sur le banc, leur rentrée elle est souvent décisive, parce qu'ils ont autant de qualité que les titulaires, donc ça c'est un vrai plus, à condition de gérer les égos, gérer les frustrations. Mais ça, Olivier Dalloglio le fait très bien, et le groupe, à 5 journées de la fin, il voit la lumière là-haut au fond, là. Je pense que là, les égos, ils passent après. Il y a une envie de d'inscrire une montée à, dans une carrière. C'est pas neutre. Hein. Ouais, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des changements dans l'entrejeu. Là où effectivement, on a beaucoup de solutions.
Le déplacement de la SS à Grenoble, 34e journée de Ligue 2, match décisif pour rêver toujours à la Ligue 1 de première place. On va le suivre demain soir 20h45 pour notre AS Saint-Étienne, avec l'espoir de rester dans des sphères aussi hautes que face à Bordeaux. Bien évidemment, le groupe stéphanois a été dévoilé pour ce déplacement à Grenoble. On le rappelle, avec un changement, l'absence, suspension de Mickaël Nadé en défense, remplacé numériquement par Denis Sapia. Denis Sapia de retour de blessure, on ne l'avait pas vu depuis début mars, et une blessure à une cuisse face à Auxerre. Denis Sapia, il est donc de retour dans le groupe stéphanois. Les supporters des Verts qui seront présents comme toujours du côté de Grenoble, un parcage qui sera bien rempli, et des conditions de déplacement aussi, des informations prises du côté de Grenoble. Les signes distinctifs de supporters stéphanois seront prohibés dans les tribunes autres que le parcage, et on nous dit que les contrôles seront assez importants à ce niveau-là, du côté du Stade des Alpes. Donc si vous avez prévu, supporters stéphanois, d'aller du côté de Grenoble avec un maillot vert, une écharpe sur les épaules, soyez vigilants, il va faire froid en plus, ça serait dommage de se retrouver un peu tout nu dans le Stade des Alpes. Il y a des appels d'ailleurs de supporters stéphanois à se déplacer encore en nombre à Grenoble. Joris Sébille, vous en avez fait un article sur Envers et Contre Tous.
Ouais, il y a eu une campagne d'affichage assez marrante du côté de Grenoble, avec la volonté de voir un stade en vert et blanc. C'était bien évidemment pas les supporters grenoblois qui ont affiché ces affiches, mais bien sûr que dans ces sprints finales vers la Ligue 1, on aura besoin encore plus du peuple vert.
Le peuple vert présent à Grenoble, présent aussi face à Caen samedi. Ce sera guichet fermé, on peut le dire, il n'y a quasiment plus aucune place en vente pour ce match samedi. Merci beaucoup Joris Sabine d'Envers et Contre Tous. Merci beaucoup Michel Roux.
Bonne soirée à tous.
D'avoir été avec nous ce soir dans 100% Synthé. Le match demain face à Grenoble, 20h sur France Bleu.